Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. La réalisatrice burkinabé Apolline Traoré accumule les récompenses depuis le FESPACO 2019 à Ouagadougou pour le long métrage d'Errance. Elle a décroché divers prix dans plusieurs pays, dont trois au Festival international du Kerala en Inde le 13 décembre. L'une de ces distinctions a été attribuée à Jemina Naomi Nemlin, meilleure actrice enfant, pour le rôle de Ayla, héroïne du film retraçant l'histoire d'une petite fille qui sauve son père pendant la violence post-électorale en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter une discussion avec la cinéaste Apolline Traoré, jointe à Ouagadougou, qui parle de l'actrice en herbe avant de revenir sur sa carrière, son engagement en faveur des droits des femmes, entre autres sujets qui lui tiennent à cœur.
C'est vraiment un coup de cœur et une grande fierté pour moi parce que c'est son premier rôle au cinéma. Elle n'a jamais joué avant. Et là, elle se retrouve avec trois prix. Le premier était en Belgique, au Festival de Bruxelles, où elle a eu la mention spéciale du jury. Et au Nigeria, où elle a eu le prix encore de la jeune actrice francophone anglophone. Et après, à Ouaga pour les Sotibis. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi parce qu'elle a vraiment incarné son rôle avec grandeur. Et la formation que j'ai pu lui donner pour pouvoir incarner ce rôle-là, je suis très fière avec les résultats que nous obtenons aujourd'hui.
Du film d'Errance, hein, qui se situe donc à la période de violence électorale en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un père, de parents avec une petite fille, et c'est une sorte de plaidoyer pour les femmes, pour les filles, n'est-ce pas? Car il y a dans cette histoire la lutte justement de cet enfant, Ayla.
Exactement, exactement. Je voulais vraiment parler de ce phénomène où, comme on dit, nos bons pères africains souhaitent toujours avoir un garçon qui vont perpétuer leur legacy et la femme est mise au second plan. Mais aujourd'hui, on constate avec l'émancipation de la femme comment beaucoup de femmes aujourd'hui s'occupent de leur famille, de leur père et de leur mère quand ils sont vieux, mais elle n'est toujours pas légitime, elle n'est toujours pas l'héritière. Et cette période aussi est très importante pour moi parce que nous savons tous que la guerre en Côte d'Ivoire, bien que nous sommes ici au Burkina, on l'a vraiment senti, parce qu'à l'époque, dans la capitale, il y avait près de 3 millions de Burkinabés dans la ville, qui étaient plus ou moins chassés ou qui décidaient de rentrer. Et on l'a vraiment senti ici parce qu'il y avait beaucoup de ces gens-là qui n'avaient pas forcément de place. Et en sachant que les élections un peu partout arrivent très bientôt, j'espère en tout cas que ce film aurait rappelé l'horreur qui s'est passée et que ça n'arrivera plus.
C'est un garçon. Je vais avoir un fils.
Ma chérie, tu vas avoir un petit frère.
Mais ça va lui passer. C'est normal d'être jaloux à l'arrivée d'un nouvel enfant.
Un enfant, c'est un enfant. Et tu dois les aimer de la même façon.
Les rebelles ont pénétré dans la ville ce matin. Les combats à l'armée sont rares.
Les électeurs craignent le retour des combats sanglants.
Et c'est pas cessé. Contre les rançons. Tu sais où ils sont. Je vais retrouver mon fils. Il a disparu.
Je l'ai peut-être aperçu.
Francis, c'est le couvre-feu. Tu vas te faire tuer.
Papa, il faut rentrer à la maison.
Tu m'écoutes?
C'était la bande-annonce du film Dédrance de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. Revenons sur Nollywood, parce qu'en fait, donc, il y a eu plusieurs trophées. Vous avez eu donc celui de la meilleure réalisatrice francophone-anglophone pour le long métrage, mais le Burkina Faso a récolté aussi 8 trophées à ce festival, notamment Kadi Traoré pour les séries télévisées, Un femme au foyer, qui a eu le même trophée que vous, et Mouna Ndiaye qui a remporté, elle, le trophée de meilleure actrice.
C'est ça.
Quel est votre sentiment sur tous ces trophées récoltés là-bas à Nollywood ?
C'est une fierté parce que ce festival, pour la première fois, a ouvert ses portes au cinéma francophone. Pour Dérange, j'avais la chance au moins d'avoir traduit ou sous-titré mon film en anglais. Donc je pouvais compétir dans la compétition globale, c'est-à-dire de complètement de l'Afrique, de langue portugaise, anglophone et francophone et tout. Mais au niveau de la sélection francophone, il y a eu quand même assez de trophées et c'est extrêmement important que Nollywood justement commence à s'ouvrir parce que nous sommes bombardés par des films de Nollywood, mais très peu là-bas connaissent notre cinéma. Et le fait d'aller projeter justement, de montrer des films francophones qui compétissent en fait finalement entre eux, pour moi c'était une expérience extraordinaire et aussi une ouverture dans leur monde pour montrer notre cinéma.
Parole de femme.
Alors pour revenir sur l'histoire du film, vous avez l'acteur principal Jimmy Jean-Louis qui est le descendant dans votre film du révolutionnaire haïtien L'amour d'errance. Alors pourquoi avez-vous choisi ce nom en particulier ? Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ?
Il y a une raison particulière parce que quand on parle d'Haïti, on entend toujours Toussaint Louverture. Tout le monde connaît Toussaint Louverture. Et pour moi, il aurait été un peu trop évident de lui faire avoir l'ancêtre en Toussaint Louverture, mais sa connexion avec son nom et sa connexion avec ses ancêtres, j'ai aimé ce fait que l'amour d'errance était justement considéré comme un traître. C'est pourquoi beaucoup de gens, même beaucoup d'Haïtiens, ne connaissent pas l'histoire de l'amour d'errance. Et ce nom, pour moi, était important de montrer que même s'il a combattu Toussaint Louverture, il fait partie de l'histoire d'Haïti. Donc c'est pourquoi vraiment j'allais chercher un personnage que je trouvais. Et ça, c'est un personnage atypique qui n'était pas très connu à Haïti, mais qui a quand même joué un très grand rôle dans l'histoire de la révolution haïtienne. Pour moi, il était le personnage parfait pour l'histoire que je voulais raconter.
Vous aviez aussi, comme nous le savons, donc remporté au FESPACO le prix du meilleur décor, des prix spéciaux de la mairie de Ouagadougou et de l'Assemblée nationale. Je vais m'arrêter un instant sur celui de l'Assemblée nationale. Je voudrais savoir ce que ça représente pour vous. Est-ce que c'est en rapport avec l'histoire, le conflit en Côte d'Ivoire, ou est-ce qu'il y a aussi une connexion avec le problème des droits des filles? Parce que c'est la trame de votre histoire dans ce film, n'est-ce pas?
Oui, 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 mais je pense que le prix de l'Assemblée nationale, c'est vraiment, l'Assemblée nationale est vraiment là pour unir les peuples. Avoir ce prix-là, c'est vraiment lié à la crise de la Côte d'Ivoire et aussi l'impact que ça a eu dans notre population burkinabé et comment est-ce qu'elle a impacté en fait un peu partout dans le monde ces guerres civiles qui sont dues justement à la politique. L'Assemblée nationale est là pour voter des lois, pour essayer de garder la paix dans notre communauté. C'est un cri de cœur par rapport à ce que j'ai fait dans Dérance, par rapport à ce film-là qui essaie de promouvoir la dans notre sous-région.
Est-ce que vous parlez du rôle des femmes dans les crises politiques dans votre film ? Est-ce que notamment vous mettez cela en exergue, les frustrations des femmes, j'ai envie de dire, par rapport aux crises politiques, le fait qu'on ne les inclut pas vraiment dans le règlement de ces crises alors qu'elles subissent la majeure partie de ces dommages ?
Exactement, ben oui, elles sont toujours en arrière-plan, elles sont toujours considérées qu'elles doivent être protégées et elles ne sont pas incluses dans les décisions, elles ne sont pas incluses dans tout ce qui se passe. Et finalement, quand on regarde dans les guerres, c'est les enfants, les femmes qui sont plus attaquées aussi par des dommages collatéraux, tout simplement parce qu'elles ne sont pas informées et même comment se protéger. Donc c'est important pour moi de montrer le combat de la femme et de la place de la femme dans notre communauté africaine pour qu'on puisse les inclure plus en montrant non seulement qu'elles sont fortes, forte aussi intellectuellement et qu'elle peut faire partir des décisions majeures de nos pays. Et c'est de ça que je parle dans le film, ce qui montre Ayla, non seulement physiquement elle a bravé des dangers, mais intellectuellement elle a dû réfléchir pour sauver son père de certains dangers. C'est l'intelligence qu'elle a pu avoir pour sauver justement un homme, son père. Donc la place de la femme est extrêmement importante dans ces décisions politiques, dans ces organisations de la communauté. Et j'espère que de plus en plus, on verra ça.
Pourriez-vous nous parler des femmes qui ont travaillé sur le film, notamment peut-être de Sylvie Gadmer, qui était au montage, entre autres, hein, des femmes que vous avez eues, donc ne serait-ce que dans l'équipe technique, c'est assez rare, n'est-ce pas ?
Oui. J'ai commencé même à écrire le film avec Bénédicte Portal, qui est scénariste. Donc, elle est co-scénariste avec moi, donc nous avons travaillé ensemble. Et évidemment, Sylvie Gardner, que j'ai vraiment adorée, qui avait les mêmes sensibilités que moi. Au niveau du tournage, j'avais beaucoup de femmes. Toute la panoplie de costumes et de maquillage étaient des femmes. Les assistantes aussi de production étaient des femmes. Donc, je m'assure en tout cas d'avoir des compétences féminines à chaque fois que j'ai un plateau, parce que c'est important, parce qu'on est vraiment... métier entouré d'hommes et je pense que leurs compétences sont aussi valables que celles des hommes.
On revient un petit peu au niveau du FESPACO, hein, par rapport à ces questions féminines où justement il y avait eu des discussions sur la présence des femmes dans l'industrie du cinéma. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette question-là ?
Je pense que c'est très dommage, mais on en discute depuis longtemps, mais les portes ne sont toujours pas très ouverte, donc il faut vraiment forcer pour y entrer. Maintenant, j'espère qu'avec tous ces mouvements qu'on a, on pourra encore nous donner une place, parce que le problème d'être femme dans ce métier, c'est que la plupart du temps, on ne nous fait pas confiance de la capacité de notre talent, on ne fait pas confiance à gérer un certain nombre de budgets, et du coup, les places sont prises et on n'arrive pas à s'imposer. Mais ce que je peux dire, c'est que la persévérance va toujours aboutir si on ne lâche pas. Et moi, je pense que j'arrive à être ce que je suis aujourd'hui tout simplement parce que je refuse de me mettre des barrières en tant que femme et en me disant que si j'échoue à tel ou tel endroit, c'est que je devrais travailler encore plus pour y arriver. Et je pense que toutes les autres femmes devraient avoir cette même logique en se disant il faut foncer, il faut taper la porte pour qu'elle s'ouvre grandement. Et j'espère que ça va changer, j'espère que les mentalités aussi vont changer et qu'ils auront un peu plus confiance en nous.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Par rapport au scandale 2019 au FESPACO, hein, cette actrice qui se serait fait agresser par un réalisateur, je ne sais pas si vous vous êtes prononcée à l'époque, mais comment réagissez-vous par rapport à cela ?
Non, je ne m'étais pas prononcée à l'époque ouvertement parce que je n'avais pas eu l'occasion. Mais je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment horrible. Nous, les réalisateurs, nous avons une certaine place de pouvoir quand nous sommes sur un plateau. Et malheureusement, certaines personnes utilisent ce pouvoir à l'extrême. Quand on parle de pouvoir sur un plateau, c'est un pouvoir d'exécution du travail que l'on demande à être fait. Mais agresser une personne sur un plateau, peu importe même que ce soit sur un plateau ou dans la rue ou quelle que soit la situation, c'est une violence faite aux femmes et ça salit notre métier. Et j'espère que ce mouvement permettra d'arrêter toutes ces violences. Et ce n'est pas seulement les violences physiques, hein. Il y a des violences morales qui sont énormes et extraordinaires dans cet environnement-là. Et malheureusement aussi, ça a pris une ampleur assez grande où ces jeunes actrices, en fait, pensent qu'elles doivent s'aider pour avoir un rôle, qu'elles doivent s'aider pour se faire voir et que c'est la seule façon d'y arriver. Et j'espère qu'elles vont savoir aujourd'hui qu'elles ont une voix et qu'elles ne doivent pas s'aider. Et justement, ces actes barbares seront punis.
Par rapport à l'héroïne du film, en quelque sorte, hein, Ayla, je reviens sur cette petite fille qui sauve son papa. Et en fait, vous parlez là d'une culture bien ancrée dans la société, au plan universel. Hein, ce n'est pas seulement en Afrique. Et l'on s'adresse particulièrement aux pères, aux hommes. Donc on voit un père qui est réticent à donner une certaine valeur, entre guillemets, à sa propre fille. Je voudrais savoir si ce problème est essentiellement un problème, on va dire, masculin, dans le sens 100 sous. Est-ce que ce n'est pas un problème global qui fait que dans la société, les femmes ont leur part de responsabilité? Est-ce que les femmes sont vraiment solidaires dans leur propre protection et leurs propres droits?
Mais on ne peut pas dire que la femme a un rôle à jouer quand on prend nos ancêtres, ce qu'ils ont connu. Si on part dans notre tradition, le fait même qu'on leur donne une dot veut tout dire. Si on veut le traduire littéralement, c'est comme si j'achetais la personne, j'achetais la femme. Donc je viens donner une dot et je prends ma propriété. Donc du moment où la culture est basée de cette manière-là, c'est-à-dire que ces femmes-là, justement, ont grandi en se disant que c'était comme ça. Donc on ne peut pas, à ce moment-là, parler de responsabilité si elles ne savent que ça. Aujourd'hui, évidemment, ça a évolué. Aujourd'hui, elles sont émancipées. Aujourd'hui, elles comprennent qu'elles ont certains droits dans ces sociétés. C'est toujours difficile parce que elles ont toujours des grands-pères, elles ont toujours des grands-mères qui insistent à garder cette tradition pour être elles-mêmes, se défendre seules, sans appui autour, ben ça sera difficile. Est-ce qu'on peut parler vraiment de responsabilité? Parce que la culture a été faite comme ça. Elles sont nées grandir dans ce genre de comportement. Et aujourd'hui, elles essaient, en tout cas nous essayons, parce que je me mets dedans, pour en sortir et pour montrer que nous avons des droits aussi, des responsabilités. Mais on ne peut pas se battre seul. On ne peut pas se battre sans appui autour. Mais si l'appui autour nous dit, ben non, c'est comme ça notre culture, tu dois être soumise, tu dois écouter ce qu'il dit, c'est lui qui doit décider. Après, ça commence à être difficile. Il nous faut un soutien. Maintenant, si on n'est pas content de certaines situations et effectivement on ne bouge pas le doigt parce que c'est une facilité, là on peut parler de responsabilité.
Justement, c'est là que je voulais en venir. Prenons l'exemple de l'excision, prenons l'exemple des rites du veuvage. Ce sont des traditions qui sont perpétuées généralement, majoritairement par des femmes. C'est en cela que je voulais parler de responsabilité. Je voulais dire, est-ce qu'elles n'ont pas plus de pouvoir pour faire cesser des choses qui sont considérées comme des violations des droits humains?
Je suis totalement d'accord. C'est une violation parce qu'aujourd'hui, il y a eu un mouvement collectif qui les a emmenés à être plus forts, à se battre pour ça. Et aujourd'hui aussi, par rapport à cette culture, il ne faut pas oublier qu'il faut une certaine éducation, de changement de mentalité pour comprendre que ces actes-là sont des actes justement qui vont à l'encontre des droits de l'homme. C'est notre responsabilité aussi en tant que peuple de les éduquer à changer. Et donc ces responsabilités-là, c'est clair qu'une personne éduquée qui continue à faire une chose pareille, ce n'est plus une affaire de responsabilité, ça devient même un crime parce qu'elle est en mesure de comprendre l'atrocité de cet acte-là. Et là, maintenant, ça doit être puni. Et il faut toujours, comme je le dis, un collectif d'enseignement, mais individuellement, évidemment, c'est difficile.
Est-ce que vous visez des autres festivals, bien entendu? Est-ce qu'on peut parler de Cannes, de Hollywood? Et comment faire pour ouvrir votre art, l'art africain, les films africains un peu plus à ces grands festivals?
Bien sûr, on vise toujours ça, mais on a toujours un problème de financement. Hein. Je vise toujours des festivals. Le film a été présenté à New York déjà, The World Cinema. Il va bientôt être au festival de Gothenburg en Suède. Mais on va compétir avec nos films, avec des films qui ont coûté 10 fois, 30 fois, 40 fois plus que le nôtre. On a un vrai problème de financement pour avoir justement un film assez solide et assez artistiquement abouti pour pouvoir avoir ces gros festivals. Et on espère que dans les années à venir, il y aura encore plus de budget que nos États vont inclure en tout cas dans la culture pour qu'on puisse justement accéder à ces gros festivals et partager notre culture avec le reste du monde.
Votre premier film, c'était Frontières. Maintenant, on a Dérance. C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais vous avez probablement déjà une idée du prochain film. Est-ce que vous allez encore inclure les droits des femmes dans ce prochain film éventuellement?
Bien sûr, je crois que c'est mon combat en tant que réalisatrice de parler toujours de la femme. Je suis effectivement en écriture et je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais c'est sûr que mon héroïne sera encore une femme combattante.
Vous avez un mot pour terminer à dire pour les petites filles?
Le message que je leur dirais, c'est d'abord de ne jamais se taire, parce que se taire emmène à la défiance. Il faut en parler, il faut avoir le courage d'en parler à une personne et de ne pas baisser les bras. Elles font partie intégrale de l'évolution de notre monde. Donc, quels que soient les préjudices qu'elles sont en train de subir, surtout ne pas le garder à l'intérieur de soi, parce que ça ronge d'en parler et de ne pas avoir peur de se défendre, ne pas avoir peur de dénoncer justement ces atrocités qui sont autour d'elles.
Merci beaucoup à Pauline Traoré, réalisatrice burkinabé.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous à partir de Ouagadougou pour Le Monde au Féminin. À très bientôt.
Si jeunesse pouvait.
Dans les pays de la zone sahélienne, de nombreux jeunes, dont des mineurs et des filles, sont enrôlés par les groupes islamistes qui leur inculquent une doctrine extrémiste. Au Niger, une centaine d'éléments repentis du groupe Boko Haram ont été réintégrés dans leur communauté après 3 ans de déradicalisation. Au cours d'une cérémonie, ils se sont solennellement engagés à ne plus reprendre le chemin du terrorisme et à ne plus poser d'actes contraires aux lois nationales. Retour sur cet événement avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Au nom des 109 autres ex-combattants de Boko Haram, Mustapha Mamadou, la trentaine, jure sur le Coran. Il demande pardon et s'engage à ne plus prendre part à des actes terroristes et à respecter les lois de la République. Les autres se tiennent les mains et répètent ensemble avec lui devant un parterre d'autorités, dont le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, dans l'enceinte hautement sécurisée du centre de réinsertion socio-économique pour repentis de Goudoumaria à quelques 200 km de Diffa.
Dans ce centre, les éléments ont subi le profilage par le service central de lutte contre le terrorisme de la police nationale. Et les dossiers qui en ont issu ont été examinés par la justice en vue de procéder au triage conformément aux dispositions légales de notre pays. À la suite de ce triage, un premier groupe de 35 mineurs non accompagnés ayant fait l'objet de déradicalisation a été remis au ministère de la Justice. Un second groupe de 125 éléments a été soumis à la formation professionnelle après la déradicalisation. Le résultat de ce long processus de déradicalisation et de réhabilitation est aujourd'hui devant nous, avec 110 personnes prêtes à reprendre leur place dans leur communauté respective pour mener une vie normale. De ce groupe, 47 personnes sont de nationalité nigériane. Les 15 autres éléments sont prêts à la réinsertion au mois de janvier de l'année 2020.
Des certificats de sortie et des kits pour démarrer des activités génératrices de revenus selon la formation suivie ont ensuite été remis aux jeunes, parmi lesquels 8 femmes. Ce lundi 9 décembre, en principe, ils doivent être acheminés dans leur village d'origine et pour les accepter par les familles et les communautés, les autorités régionales de Diffa ont fait un travail de sensibilisation en amont. Issa Lemine, gouverneur de la région de Diffa.
Il
ne
faudrait pas que ces jeunes-là souffrent de leur passé. Ce qu'ils ont fait, ils ont regretté, ils ont renoncé. Et ils nous ont montré pendant 3 ans qu'ils ont renoncé. Ils ont accepté de faire une formation professionnelle. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est de les accueillir à bras ouverts, de les considérer comme tous les autres jeunes qui sont avec nous. Donc ils vont regagner leur famille. D'abord, c'est une réinsertion en famille. Ils vont retourner dans leur famille et seront assistés. Et on va veiller parce qu'on va mettre un comité de suivi et d'encadrement. Donc je pense que ça va marcher et il n'y aura pas de stigmatisation. Et des dispositions seront prises à tous les niveaux. Dans ce cadre, on a déjà fait une réunion avec tous les responsables administratifs et coutumiers de la région et chacun s'attelle à cela.
Dans la guerre contre la secte Boko Haram, les autorités nigériennes ont opté en fin de l'année 2016 pour un processus volontaire de reddition des combattants à travers une série d'appels. Les premiers à répondre, une trentaine, ont été admis dans le centre de Goudoumaria. Ils sont aujourd'hui, selon les autorités, plus de 200 hommes et femmes prise en charge par l'État et ses partenaires. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.